jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission un peu particulière, le grand jury des auditeurs avec Raphaël Glucksmann, celui qui fait peur à la majorité. C'est peut-être sans doute d'ailleurs le troisième homme de ces élections européennes, tête de liste des formations Parti Socialiste et Place Publique, en tête de la gauche dans les sondages. Les auditeurs ont la parole, c'est vous, et on attend vos questions au 3210 et sur l'application RTL. Vous pourrez dialoguer avec Raphaël Glucksmann, il n'y a pas besoin de lui poser une question, certains peuvent pouvoir faire un commentaire, échanger avec lui, et vous pouvez également confronter vos points de vue. On vous attend donc au 3210, et nous sommes avec Thierry, je crois, c'est bien ça. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour Eric.
Bon, vous êtes prêt pour la première question?
Ah, je suis prêt.
Bon, ben très bien.
Échanger, quoi.
Je vous garde au chaud, sans plus attendre le rappel des titres avec vous, Céline Landreau.
Alors que le plan Vigipirate a été rehaussé hier soir à son niveau maximal, Emmanuel Macron l'a justifié ce matin à son arrivée en Guyane, expliquant que la branche du groupe État islamique impliquée dans l'attaque qui a fait au moins 137 morts à Moscou avait aussi conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur le sol français. De nouvelles opérations anti-drogue Placenet XXL lancées ce matin dans plusieurs villes de France, notamment à Lille et Dijon, avec déjà près de 190 interpellations à la clé, d'après le ministre de l'Intérieur. Et puis, faut-il augmenter les impôts pour renflouer les caisses de l'État? L'allié François Bayrou, le patron du Modem, a relancé le débat ce matin sur RTL, appelant le gouvernement et les parlementaires à discuter d'une hausse ciblée visant par exemple les super profits des entreprises, piste jusque-là écartée par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. La météo, Louis Baudin, pour cet après-midi d'abord.
Ben, ça se présente plutôt bien, en tout cas pour ceux qui rêvent de soleil. Hein, il devrait encore dominer aujourd'hui dans la plupart des régions. Fini les giboulées de mars de ce week-end. Alors il y aura quand même deux bémols. Hein, on aura des nuages et quelques pluies sur la pointe Finistère, sur la Bretagne tout au long de l'après-midi. Et puis dans le sud, ben, là va arriver une perturbation. Elle va remonter d'Espagne, de Méditerranée pour apporter progressivement des nuages, de la pluie sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur, la Corse, la dégradation nuageuse et pluvieuse. Avec en plus du vent d'autant, c'est du vent d'est qui soufflera du golfe du Lion jusqu'à la région toulousaine, jusqu'à 80-90 km/h tout de même. Et puis dans les autres régions, avec ce soleil quand même, les températures vont grimper un peu, mais elles seront à peine de saison hein, cet après-midi. 11 à 14 degrés dans la moitié nord, 15 à 17, 18 degrés dans le sud, 19 même à Biarritz.
Et c'est là que vous allez perdre en popularité pour demain, Louis?
Parce que là, oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour la semaine. À partir de demain, bah, la perturbation dont je vous ai parlé va remonter sur toute la France, apportant des nuages, de la pluie. Attention dans le sud-est, hein, on sera pas loin d'un épisode Cévenol. Malheureusement, beaucoup de pluie attendue sur le Languedoc, avec du vent fort, 90-100 km/h près de la Méditerranée. Puis la neige qui va revenir en montagne, dès 1000 mètres hein, sur les Pyrénées, le Massif central, 1200 mètres sur les Alpes. Et ce type de temps, ça va durer une bonne partie de la semaine.
C'est pas la peine de revenir. Hein,
c'est ça, d'accord.
Merci Louis Baudin, on vous retrouve demain à midi, Céline Landreau. Merci.
Avec plaisir, à demain.
J'accueille William Galibert du service politique.
Salut Eric, on accueille surtout Raphaël Glucksmann quand même. Hein.
Et nous disons bonjour très officiellement à Raphaël Glucksmann. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes
l'invitation.
Vous engagez à répondre clairement dans la transparence à tous les auditeurs. Hein.
Dans la transparence, en toute sincérité, et je vais essayer d'être bref, puisque vous m'avez prévenu.
Ah oui, parce qu'il y a tellement de questions déjà qui se pressent au 3210. On va commencer donc avec Thierry, mon cher Thierry, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour à votre invité.
Bonjour.
Alors, la question que je me posais, c'est, j'ai un peu l'impression que vous allez faire du neuf avec du vieux, vous avez le soutien de monsieur Hollande. Et c'est, non mais trouver en moi aucun tac ou quoi que ce soit, c'est vraiment la question que je me pose. Il n'aurait pas fallu peut-être changer le parti, tout rechanger, parce que avec votre rapprochement avec LFI, en plus ça fait beaucoup je trouve pour le PS et il s'oublie petit à petit.
Ah. Alors vous savez, moi j'ai créé un parti avec d'autres il y a 5 ans qui s'appelle Place Publique. Et c'était des gens d'ailleurs qui étaient encartés nulle part. Et donc on a nous développé notre propre parti politique et on fait une union avec le Parti Socialiste. Et j'en suis extrêmement fier. Et je suis sûr que en fait notre offre politique elle est nouvelle. Enfin je veux dire les candidates et les candidats qui sont sur ma liste, Ils sont jeunes pour la plupart, ils ont envie de renouveler la social-démocratie européenne et ils assument des principes extrêmement puissants. Donc moi, j'ai pas du tout l'impression de faire du neuf avec du vieux, même si ça me dérange absolument pas de m'inscrire dans une grande tradition politique.
Mais hier, par exemple, à Tournefeuille, près de Toulouse, quand vous disiez, nous, pas de compromission, on ira jusqu'au bout, vous prononciez ces mots devant des gens qui, aux yeux des Français, incarne la compromission, en tout cas le compromis, une forme de social-démocratie un peu molle. Tous ces gens-là qui étaient devant vous au premier rang et qui sont encore dans les rangs du Parti Socialiste.
Alors franchement, tous ces gens-là qui étaient au premier rang, je trouve que vous exagérez grandement, parce que la plupart des gens qui étaient au premier rang, ils n'ont jamais eu en main les manettes de la France. Donc il n'y avait pas de compromission. Mais
moi, avec qui au premier rang?
Je me repose.
Non, mais t'es pas moi Tournefeuille dans le
jeu. Parce qu'il y avait 2500 personnes et que c'était absolument enthousiaste.
En tout cas, est-ce qu'on peut vraiment faire campagne avec un parti où on retrouve, je sais pas, Carole Delga, Alain Rousset, des gens qui sont installés depuis 15, 20, 30 ans et qui aussi incarnent...
On peut faire campagne avec eux. Évidemment, on peut faire campagne avec eux et on peut faire campagne sur des sujets d'ailleurs qu'ils ont portés dans leur région, comme la réindustrialisation, comme le fait de faire rapatrier des productions chez nous, le fait de vouloir transformer l'Europe en continent de producteurs. Donc oui... On peut faire campagne avec eux et on va faire campagne nous en proposant des idées neuves. Et ce que je veux dire, c'est que
moi j'ai déjà entendu ça 10 fois. Oui, alors François Hollande, la Hollandie, elle a trahi la gauche. C'est ça au fond la question de Thierry là qui nous appelle au 32-10. C'est ça, c'est vous allez forcément travailler avec ces gens dans votre campagne et puis
oui,
un jour
et d'ailleurs avec ces gens, avec d'autres. Et moi, j'ai pas une mentalité de videur de boîte de nuit, donc je suis très content. Simplement, c'est moi qui fixe la ligne et la ligne, elle est sans compromission. C'est une social-démocratie européenne, qui a compris ce qu'était la révolution écologique, qui a compris qu'il fallait tenir tête aux multinationales, qui a compris que 30 années de politique de libre-échange, eh bien, ça a conduit à la désindustrialisation de notre continent et qu'il faut des ruptures claires, des ruptures nettes. Mais moi, ce sur quoi je m'adosse, c'est sur mon bilan. J'ai été député européen pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, eh bien, j'ai tenu tête aux multinationales pour porter le devoir de vigilance des entreprises qui met fin à l'impunité des plus puissants à l'échelle du monde. Moi, j'ai porté un instrument qui bannit de nos marché les produits de l'esclavage, à la fois pour protéger les esclaves en Chine, par exemple, les esclaves ouïghours, et pour protéger nos producteurs face à une concurrence déloyale. Et contre moi, j'ai eu les lobbies, et contre moi, j'ai eu les pressions, mais j'ai pas cédé. Et je pense qu'en fait, alors, c'est une approche de la politique qui peut porter et qui peut parler.
William Galibert, du service politique d'RTL. Est-ce que vous pourriez, vous qui suivez, qui connaissez Raphaël Glucksmann, nous mettre tous à niveau? Là, on a des auditrices, des auditeurs ont la parole, qui se disent, oui, on connaît Glucksmann, mais on voudrait en savoir plus.
Sacrée responsabilité. Je vais pas me lancer dans un portrait en 30 secondes, ça serait réducteur, ça serait pas très utile, mais je vais rappeler 2-3 choses à ceux qui nous écoutent. On en a un petit peu parlé. 2019, vous étiez l'un des nouveaux visages des européennes avec votre parti, Place Publique, allié donc au PS. Et là, 5 ans plus tard, badaboum, le coup de vieux, 44 ans. Vous faites presque figure de doyen au milieu de la classe biberon. Jordan Bardella, Marion Maréchal, Manon Aubry,
en fait, fallait pas...
Valérie Ayé, qui sont les autres têtes de liste de l'élection du 9 juin et à qui vous rendez quelques années. Vos combats, vos engagements en faveur des droits de l'homme sont reconnus. Vous avez sensibilisé les Français au sort des Ouïghours en Chine et d'ailleurs vous en avez parlé même dans les 2 premières minutes de cette émission. Vous soutenez tellement l'Ukraine que vos adversaires vous qualifient parfois de va-t-en-guerre. D'ailleurs, des petits mots d'amour dans ce genre-là, vous en recevez beaucoup en ce moment. Grand bourgeois, déconnecté, sans aucun ancrage. Et alors la plupart de ces compliments viennent des insoumis ou des écologistes, c'est bon signe d'agacer autant. D'ailleurs, dans notre dernier sondage Harris pour RTL, vous arrivez à 13% d'intention de vote, très loin devant vos camarades de gauche.
Dans un instant, vous allez répondre à cela. Dans un instant aussi, je passerai un petit extrait un petit peu taquin où je viendrai vous chercher sur votre couplet anti-riche d'hier soir. Mm-hmm. Votre couplet anti-riche, on l'écoutera dans
c'est
un instant.
C'est pas anti-riche, mais je m'expliquerai si vous voulez.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Le grand jury des auditeurs.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le grand jury des auditeurs.
Nous tiendrons tête à Total pour faire la transition écologique. Nous tiendrons tête aux grandes banques pour imposer la régulation bancaire. Nous tiendrons tête aux multimillionnaires et aux milliardaires pour qu'enfin ils payent le juste impôt. Nous tiendrons tête à Airbnb pour encadrer les prix des loyers et pour mettre fin à l'augmentation sans fin de ces prix. Nous tiendrons tête aux GAFAM pour défendre nos démocraties.
Raphaël Glucksmann, la tête de liste Parti Socialiste Place Publique, qui lançait hier soir dans le Sud-Ouest sa campagne à Tournefeuille, pour être plus précis. Ça, pardon, mais ça, c'est un grand classique à gauche. Il faut avoir son petit couplet anti-riche. On se souvient du « J'aime pas les riches » de François Hollande. On se souvient « L'argent qui corrompt » de François Mitterrand. C'est le passage obligé, quoi.
C'est pas un couplet anti-riche. C'est un couplet qui s'oppose aux injustices qui minent nos démocraties. Vous savez, aujourd'hui, les milliardaires échappent à l'impôt par des montages financiers. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des entreprises, des grandes entreprises, des grandes multinationales qui font des profits complètement exceptionnels liés à la situation géopolitique dans laquelle on se trouve, liés à la guerre. Vous avez les bénéfices de Total qui explosent. Et c'est pas parce qu'il y a un gain de productivité, c'est parce que fondamentalement, les prix de l'énergie explosent depuis l'invasion de l'Ukraine. Et donc, en fait, le mécanisme d'autodéfense des démocraties dans ces situations exceptionnelles, eh bien, c'est de faire en sorte que ceux qui ont le plus contribuent le plus à l'effort commun. Mmh. Que les entreprises qui font des super profits payent des taxes massives sur ces super profits. Vous n'allez pas qualifier les États-Unis des années 30 et 40 de pays communistes.
Ça, c'est toujours l'exemple qu'on sort à gauche.
Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, quand on est dans une situation de crise,
c'est-à-dire quand les politiques publiques, quand on est à gauche, c'est taxer, imposer.
Non, les politiques publiques,
c'est de l'ingénierie fiscale. Quand on est un homme politique de gauche, il faut être bon en ingénierie fiscale.
Non. Il faut rétablir des solidarités dans nos démocraties. Oui. Quand vous êtes sur un continent européen où les milliardaires, les multimillionnaires, je parle pas là du pêcheur de l'île de Ré, je parle des multimillionnaires et des milliardaires, parviennent à échapper à l'impôt et in fine payent 0,5% d'imposition réelle, eh bien, il faut un effort de solidarité. C'est ce que nous portons et c'est ce que nous pensons.
François Bayrou vient de proposer qu'on réfléchisse à taxer davantage les super profits.
Est-ce que vous pensez que François Bayrou est un bolchevique? Non, je ne pense pas. Très bien, ils y viennent. Mmh. Mais ça a été jusqu'ici bloqué par le gouvernement, bloqué par messieurs Macron et monsieur Le Maire. Nous le portons et nous le portons à l'échelle européenne. Et moi, je crois que là, on rétablit le sens de la justice qui a été perdue. Mais au-delà de ça, notre politique, c'est pas simplement la fiscalité. Notre politique, c'est aussi de sortir de la religion du libre-échange, de mettre en place un protectionnisme écologique qui protège nos productions. C'est de mettre en place des investissements dans l'industrie. C'est de faire en sorte que la transition écologique soit une révolution industrielle et qu'on recommence à produire chez nous. C'est ça l'enjeu principal.
On va prendre Odile. Elle a fait le 32-10. Odile, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Raphaël Glucksmann vous écoute.
Eh bien, écoutez, bonjour. Je vais d'abord faire un petit commentaire auprès de Raphaël Glucksmann, que je ne connaissais pas il y a quelques années et que j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux par son action pour l'Europe. Et je voulais dire que j'ai été, plutôt libérale, j'ai été positivement surprise de son action pour les droits de l'homme, pour les Ouïghours en particulier, le fait de donner des listes avec le nom des entreprises qui font travailler ces pauvres gens, son action contre tous les lobbies européens à divers niveaux. C'est vrai que j'ai découvert un homme engagé, sa position par rapport à LFI. Bon. Mmh. Étant d'origine polonaise, il est évident que sa position par rapport à l'Ukraine m'agrée. Je pense qu'il a tout compris des enjeux géopolitiques par rapport à l'Europe et qu'il ne faut rien lâcher.
Auriez-vous, Odile, une question après cette déclaration d'amour?
Et alors,
moi, ça me va jusque-là.
Et alors, ceci dit, mon origine un peu libérale va ressortir. C'est que pour moi, effectivement, alors je viens d'écouter ce que M. Glucksmann vient de dire, ce projet de taxation des super-riches, d'accord, mais c'est quand même un petit peu communiste. Comment on va s'y prendre? Comment on va s'y prendre aussi pour que les investisseurs ne quittent pas l'Europe? Enfin, moi, si je suis super riche et vous me taxez, je vais m'installer ailleurs.
Oui, mais c'est précisément pour ça qu'on va le faire à l'échelle européenne. C'est qu'il faut le porter à l'échelle européenne. C'est pas pareil de partir de Paris pour aller à Bruxelles et de partir d'Europe pour aller à Dubaï, que Madame.
Vous savez bien que les projets qu'on veut déployer à l'échelle européenne, ça se fait jamais. Oui, il faut faire une armée européenne. Oui, il faut une fiscalité européenne. Oui, puis très bien. Dans les meetings, on adore ça. Mais derrière, il y a 27 pays à convaincre.
Je comprends votre scepticisme.
On n'y arrive jamais.
Je comprends votre scepticisme qui frôle le cynisme parfois. Mais en réalité, regardez ce qu'on a fait déjà pendant ce mandat. On a mis en place la mutualisation des dettes pendant la pandémie. On a transformé des institutions européennes qui étaient mais à la ramasse en matière de défense, en question de sécurité. Eh bien, on les a transformées en gigantesque coordination de livraison d'armes à l'Ukraine en quelques jours. Donc, en fait, on peut changer l'Europe. Pas parce qu'on est intelligent, c'est pas parce que moi je suis brillant quand je parle.
Quand il y a des situations d'urgence.
C'est quand il y a des situations d'urgence. Ouais. Exactement. Et quand il y a une situation d'urgence, quand l'histoire revient frapper à notre porte et dans sa dimension la plus tragique, eh bien, l'Europe peut changer. Et là, ce dont on a besoin, parce qu'en fait, on est dans une situation d'urgence absolue. Ce dont on a besoin, eh bien, c'est d'un effort commun à long terme. Le pari de Vladimir Poutine, c'est que, en fait, nos sociétés sont incapables d'un effort commun à moyen ou long terme. Et donc, qu'à la fin, on cédera, qu'à la fin, on ne produira pas ce qu'il faut produire pour les Ukrainiens, qu'à la fin, on demandera à capituler. Et ce qu'il faut pour qu'on puisse fournir cet effort à long terme, c'est un sentiment de justice. C'est le sentiment que l'effort est équitablement réparti. Et si on a des méga-entreprises, type Total, mais c'est pas la seule, dans l'agroalimentaire aussi, qui font des bénéfices immenses liés à la situation extrêmement difficile que connaissent les populations européennes aujourd'hui, eh bien on n'y arrivera pas à produire cet effort commun. Et donc moi ce que je veux dire, c'est que c'est pas utopiste, c'est pas gauchiste, c'est du réalisme. Il faut... Pour solidifier nos démocraties, il faut diffuser dans nos démocraties
le sentiment de justice. Puisqu'on parle de l'argent, et pour prolonger la question de la libérale Odile, qui est avec nous au 3210, reprendriez-vous à votre compte la petite phrase de François Hollande « J'aime pas les riches ».
Mais je pense que c'est pas une question d'aimer ou pas les riches. C'est une question de faire en sorte que les plus riches d'entre nous...
Est-ce que vous la prononceriez, cette phrase ?
Et moi, j'ai un mec qui est super riche, et qui paye ses impôts, et qui ne cherche pas à y échapper, et qui contribue à l'effort national, j'ai aucun problème.
Donc non.
Donc moi, ce que je n'aime pas, c'est ceux qui font des montages financiers pour pas payer les impôts, qui vont mettre leur argent dans des paradis fiscaux, et qui, ce faisant, font en sorte qu'on n'arrive pas à financer nos services publics, font en sorte qu'il y ait un sentiment de colère et d'injustice qui gronde dans notre pays, et dans tous les pays européens de la même manière.
Autre question, 32-10 dans une minute.
Les auditeurs ont la parole.
Le grand jury des auditeurs.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le grand jury des auditeurs.
Et je vais lui demander avec qui il va siéger, est-ce qu'il va continuer à siéger avec les écolos, qui sont à peu près contre tout ce qu'on propose aujourd'hui pour le milieu rural, ou avec qui va-t-il siéger, puisque je me la posé à moi-même.
Et la semaine dernière, Jean Lassalle était l'invité des auditeurs ont la parole. Il a préparé cette question pour vous, Raphaël Glucksmann, vous qui êtes parlementaire européen, avec qui les socialistes, enfin votre liste, Place Publique, Parti Socialiste, siégerait-elle et il vous pose la question, est-ce que ce sera avec les écolos?
Nous, on a un groupe au Parlement européen, qui est le deuxième groupe du Parlement européen, c'est le groupe social-démocrate. Et donc moi, je vais retourner siéger au groupe social-démocrate. Et d'ailleurs, je veux dire aux auditrices et aux auditeurs que le principal enjeu de cette élection européenne, c'est de savoir qui va être la première force en Europe, qui va dominer la Commission et le Parlement européen. Et donc ça se joue entre qui et qui ? Ça se joue entre nous, les sociaux-démocrates, et la droite du Parti populaire européen. Je sais qu'en France, on a l'habitude du face-à-face entre Macron et l'extrême droite. Eh bien, à l'échelle européenne, c'est un face-à-face gauche-droite entre nous, les sociaux-démocrates, qui aspirons à devenir la première force du Parlement, et le Parti populaire européen. Et je peux vous dire que ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui dominent. Alors moi, franchement, un Jacques Delors à la tête de la Commission européenne, c'est pas pareil qu'un Barroso. Hein, l'esprit de la CFDT, c'est pas tout à fait comme l'esprit de Goldman Sachs. Et donc, c'est ça l'enjeu principal. Après, par contre, si la question, ça veut dire, est-ce que nous, on va continuer la transformation écologique ou l'abandonner, ben nous, on va la continuer. Et là-dessus, je ne suis pas sûr qu'on sera d'accord.
André a fait le 32-10. Il est à Colmar, me semble-t-il, en Alsace. Mon cher André, bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur Glucksmann.
Bonjour.
C'est toujours très agréable d'écouter monsieur Glucksmann parce qu'il parle très bien. Et il me rappelle mes 18 ans. J'avais 18 ans en mai 1981. Ça me rappelle les beaux discours qu'on entendait, Roland Dumas, Jack Lang, Frédéric Mitterrand qui vient de nous quitter il y a quelques jours de ça. Et simplement, ça me fait surtout penser à des pétitions de principe, à des bonnes consciences, à des bonnes résolutions, et pas toujours avec beaucoup d'application. J'ai entendu il y a quelques semaines M. Glucksmann très inquiet sur la possible victoire de M. Trump, pour la sécurité de l'Europe notamment. Enfin, M. Trump est américain, il défend son pays plus que d'autres intérêts. Ça ne me choque pas, plus que ça. Et quand j'entends le discours tout récent de M. Glucksmann contre les milliardaires et compagnie, moi j'ai passé quelque temps aux États-Unis. Et je me suis intéressé, entre autres, au nom le plus célèbre des États-Unis, les Rockefeller. Pendant des générations, il y a des gens qui ont trouvé comme maraude de convaincre les Rockefeller. Résultat, ça reste quand même une des familles les plus légendaires et les plus célèbres du monde. Ils sont toujours là. Et je m'en réjouis parce que c'est des gens qui ont fait...
Alors là, c'est très intéressant, André. Je ne sais pas où sera votre question, mais déjà, je marque une petite pause parce que André nous dit, Raphaël Glucksmann, que finalement, c'est un plaidoyer pour la méritocratie que la France vit aussi par ses... Alors, c'est pas ses Rockefeller, c'est Bernard Arnault. Voilà, en l'occurrence, c'est Bernard Arnault qui a 80-90 enseignes, marionneaux, etc., qui serait peut-être chinoise, que sais-je, si lui n'était pas là.
Mais j'attends sa question ou je réponds à la vôtre?
Ben répondez déjà à celle-là, parce que je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Et ensuite, on écoutera sa question. Mais oui, on a besoin de nos milliardaires, nous dit-il.
J'aimerais déjà... Non, il faut quand même que je réponde à la première partie de la question, qui est la pétition de principe. Est-ce que c'est vraiment réaliste ou pas? Moi, je ne suis pas dans la pétition de principe. Je veux dire, j'ai un mandat au Parlement européen derrière moi. Et je suis, par exemple... le premier qui est posé sur la table la question de la guerre hybride menée par la Russie de Vladimir Poutine contre nos démocraties. J'ai créé et présidé la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences. C'était pas du tout de la pétition de principe, c'était s'occuper de notre souveraineté, de notre sécurité face à un régime qui cherche à déstabiliser nos démocraties. De la même manière, quand j'ai voulu défendre les Ouïghours parqués dans des camps de concentration, c'était pas des pétitions de principe. J'ai été dans la commission commerce internationale pour créer un instrument commercial de bannissement des produits d'esclavage de nos marchés. Et ensuite, je me suis occupé de la filière du photovoltaïque et là, j'ai compris que la politique commerciale ne suffisait pas et qu'il fallait une politique industrielle parce que si on bloque les panneaux solaires chinois qui sont en train de ratiboiser l'ensemble de notre production au moment où on se parle. Si on les bloque à l'entrée dans les ports européens, eh bien derrière, il faut que nous, on soit capable d'en produire suffisamment des panneaux photovoltaïques. Et donc, ce mandat m'a transformé justement d'un rapport fondé sur les principes à un rapport à la politique. Et la politique, c'est pas que des principes. C'est derrière, il faut des politiques économiques, il faut des politiques industrielles, il faut des politiques commerciales. Et donc, je récuse le terme de pétition de principe. Et maintenant, sur la question des milliardaires. Mais que des gens réussissent, qu'ils créent des emplois, qu'on ait de la méritocratie, c'est fondamental, c'est très bien. Moi, je suis pas en train de vous expliquer, je suis pour la collectivité.
Ça va presque plus loin, parce qu'il vous invite presque à leur dire merci, quoi.
Je suis pas en train de vous expliquer que je suis pour la collectivisation des moyens de production, là, au moment. Ce que je dis simplement, c'est que la méritocratie, oui, et derrière la solidarité. Et surtout, quand on est dans un moment où on a des chiffres qui se rencontrent, qui sont d'un côté les bénéfices records de ces grandes entreprises du CAC 40 et de l'autre côté, l'explosion de la pauvreté partout en Europe. Et
donc, Raphaël Glucksmann, l'empreinte fiscale de Bernard Arnault, c'est le budget de fonctionnement du ministère de la Culture.
Mais
est-ce que vous voulez de plus? C'est énorme. Merci Bernard Arnault.
Non,
l'empreinte fiscale d'LVMH, c'est le budget de fonctionnement du ministère de la Culture en France.
Écoutez, aujourd'hui, en Europe, partout en Europe, on a fait une étude avec des fiscalistes extrêmement reconnus et qui ne sont pas des activistes gauchistes, comme vous pourriez le suspecter. Et ce qu'ils disent, et ils disent tous la même chose, d'accord? Et c'est la Commission européenne qui le dit aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème qui est que les plus grandes entreprises et les plus hauts patrimoines, je ne parle pas là, encore une fois, de quelqu'un qui a gagné 2 millions d'euros dans sa vie en travaillant dur, parce qu'ils arrivent à échapper à l'impôt. Et qu'aujourd'hui, le travail est beaucoup, beaucoup plus taxé que le capital. Et que c'est un problème majeur. Et que donc, on a besoin de corriger le tir. Et d'autre part, j'aimerais rappeler cela, c'est que c'est ce que font toutes les démocraties quand elles sont confrontées à une situation de crise. Elles installent de nouveaux systèmes de redistribution des richesses.
Alors André, est-ce que vous aviez une question, mon cher André?
Oui, alors très très rapidement, la question... Comment voulez-vous prendre des véritables mesures écologiques qui coûteront de l'argent quand on a plus de 3 000 milliards de dettes rien que pour la France?
Bonne question. Raphaël Glucksmann vous répond dans une minute.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le grand jury des auditeurs.
Raphaël Glucksmann, à l'instant, André vous posait la question, juste avant la pub. Il vous disait comment prendre des mesures écologiques par essence coûteuses, sachant que la France est totalement dans le rouge, avec 3 000 milliards de dettes, un peu plus.
Alors déjà, on a fait, face à la pandémie, quelque chose d'extraordinaire en Europe. On a mutualisé notre emprunt à l'échelle du continent européen. Et c'est quelque chose qu'il faut reproduire pour investir. Parce qu'en fait, jusqu'ici, le Green Deal, ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert à l'échelle européenne, c'est un ensemble de normes contraignantes et d'objectifs contraignants. Et si on s'en limite là, on va avoir une insurrection partout en Europe. Et donc, il faut qu'on fasse ce que les Américains ont su faire avec l'Inflation Reduction Act de M. Biden, c'est-à-dire investir dans cette transition pour qu'elle devienne un formidable vecteur de réindustrialisation du continent européen. Et donc, on a besoin d'investissements. Et ces investissements, c'est des vrais investissements. Ça sera rentable à long terme. Ça va créer des emplois dans l'industrie, des CDI bien rémunérés, syndiqués, encadrés avec des droits, pas des bullshit jobs. Ça va aussi permettre à l'Europe d'assumer sa souveraineté. Et donc, il faut qu'on investisse. Et donc, l'argent, eh bien, il va falloir l'emprunter de manière collective à l'échelle européenne. Et il y aura deux axes. Les industries de la transition écologique et la défense. Et ces deux choses, on peut pas s'en passer. Et c'est vraiment, faut comprendre que là, en ce moment, on joue notre avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, on est dépendant en tout.
Donc fabriquer des canons et fabriquer de l'environnement.
Fabriquer de quoi se défendre. Parce qu'on l'a pas fait pendant 40 ans et c'est ça la vérité en fait. Et franchement, quand vous rentrez dans les dossiers, vous êtes affligé par l'indolence des gens qui ont dirigé nos pays pendant 40 ans, partout en Europe. Et deuxièmement, investir dans la transition énergétique. Vous savez, moi je pense que nos sociétés, elles se vivent comme étant en déclin depuis le premier choc pétrolier. Depuis qu'on s'est rendu compte que notre accoutumance au gaz et au pétrole nous avait rendu dépendants de pétromonarchies sur lesquelles on n'avait plus prise et que donc on contrôlait plus notre destin. Et depuis, on a l'impression comme ça d'avoir complètement chuté. Et cette transition énergétique qui d'habitude est présentée comme une contrainte, bien moi je la présente comme une manière de retrouver la liberté.
Marina fait le 32-10, je vous interromps beaucoup parce qu'il y a une grosse pression au standard. Merci André de Colmar, bonjour Marina.
Oui, bonjour Monsieur Brunet.
Votre question pour Raphaël Glucksmann, tête de liste, place publique, Parti Socialiste, portée européenne.
Eh bien, Monsieur Glucksmann, je vous entends depuis tout à l'heure, vous m'épatez par votre taux de mensonge et votre mépris des gens. Vous êtes dans un monde doré et je pense que vous ne vous rendez pas compte de la réalité de ce que vive de ce que vit le peuple. Moi, ma question pour être très bref et sinon je peux développer après. Vous parlez de multinationales, vous êtes contre de révolution écologique, d'injustice, de continent producteur, de social-démocratie européenne. Alors, dites-moi simplement, juste comme ça, pourquoi vous détaxez les produits agricoles importés que je qualifierais moi d'industriels, puisqu'ils sont produits par des grandes firmes contre ce que vous venez de vous opposer, et contre des investisseurs en Ukraine, qui vont produire des produits qui sont interdits à la production par les producteurs en France et en Europe, qui seront donc sans contrôle sur leur qualité pour la santé, qui vont tuer pour ne serait-ce les betteraves sucrières, les abeilles d'Ukraine, mais c'est pas grave. On va faire des poulets hors sol, mais c'est pas grave non plus, ça n'a pas l'air de vous gêner. En France, ça gêne. Mais comme vous parlez de l'Europe, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe, bien que, attention, hein, je n'ai rien contre l'Ukraine et l'aide à l'Ukraine.
Alors,
mais je pense qu'un petit peu trop d'aide à l'Ukraine, au mépris du peuple français, je pense que vous êtes pour la mise à mort des paysans. Alors pourquoi tant de soutien à l'Ukraine et pourquoi détaxer les produits agricoles et laisser crever les Français?
Il va vous répondre, Raphaël Glucksmann.
La première chose, c'est que moi, je suis pour la survie de la paysannerie française, justement. Et c'est pour ça que, contrairement à tous ceux qui se proclament les porte-paroles de la colère du monde agricole et qui, quand ils vont à Bruxelles, soutiennent la politique agricole commune telle qu'elle est aujourd'hui, ça veut dire que 80% des subventions vont à 20% des exploitations, eh bien moi je me bats contre cette politique agricole commune. Moi je me bats pour une politique agricole commune, c'est quand même 30%, un tiers du budget européen, qui permettent, eh bien, pas simplement de subventionner les grandes exploitations céréalières de la Beauce, mais aussi de permettre aux éleveurs qui travaillent 70 heures par semaine pour toucher 700 euros par mois, eh bien, de recevoir leur argent et de pouvoir vivre de leur travail. Donc moi, au contraire, contre ceux qui sont pour le maintien, le statu quo de ce système aujourd'hui, eh bien, je suis pour qu'il y ait une paysannerie en France. Et simplement, c'est ce système de subvention complètement inique qui est en train de tuer la paysannerie et qui est en train de transformer tout en agro-industrie. Et maintenant, sur l'Ukraine. Non, mais je vous réponds parce que vous m'avez accusé de mentir et de vouloir la mort de la paysannerie française. Donc, je vous réponds.
Et l'Ukraine. Pourquoi les paysans français supporteraient-ils la politique d'aide à l'Ukraine? Tout seul.
Vous savez, la première chose, on a levé les barrières douanières à l'échelle européenne par solidarité avec une nation qui était envahie et dont la survie est une des conditions de possibilité d'une Europe en paix. Donc, c'est pour nous que nous l'avons fait et c'est pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens français pour assurer leur sécurité. Maintenant, il y a des sauvegardes. On a mis en place des sauvegardes. Et quand les importations venant d'Ukraine dépassent un certain niveau, eh bien, on remet les taxes. Et c'est ça qui va se produire. Mais j'aimerais quand même rappeler que, par exemple, le poulet ukrainien que vous avez mentionné, vous savez quand même que le poulet ukrainien, c'est 1,4% des importations françaises. Des importations françaises. Et donc, Nous importons le poulet brésilien et thaïlandais bien plus que le poulet ukrainien. Donc là, tout le monde s'est mis sur le poulet ukrainien, mais en réalité, c'est le poulet brésilien qui de manière continue, est dans une concurrence complètement déloyale par rapport au poulet français. Mmh. Et donc, il faut des sauvegardes, mais il faut, et là, je vais le répéter, et je le répéterai toujours, il faut prendre la mesure de ce qui se joue en Ukraine. Il faut comprendre que ce n'est pas simplement par amour des Ukrainiens ou par solidarité avec les Ukrainiens que nous aidons l'Ukraine. C'est parce que c'est notre sécurité qui est en jeu et que Vladimir Poutine vise nos démocraties, cherche à déstabiliser nos démocraties, cherche à importer sa guerre en Europe, et que si nous ne soutenons pas l'Ukraine, eh bien, un jour, la guerre, elle se rapprochera encore plus de nous. Et que donc, c'est pour nous que nous le faisons. C'est pas parce qu'on préfère les Ukrainiens aux Français. Au contraire, c'est parce que nous, on doit avoir en tête une chose. C'est la chose la plus importante. C'est même peut-être la seule chose qui nous oblige de manière absolue. La sécurité des Françaises et des Français. La sécurité des Européens. Et elle se joue aujourd'hui dans le fait que l'Ukraine gagne sa guerre contre la Russie. Ça n'empêche pas qu'on va mettre des sauvegardes et que donc quand les importations qui viennent d'Ukraine dépassent un certain seuil, et ce seuil ne sera pas massif, eh bien elles seront à nouveau taxées.
Raphaël Glucksmann, la semaine prochaine, mardi à ce micro, à votre place, il y aura Marion Maréchal. Est-ce que vous pourriez, dans la tradition de ces rendez-vous, lui poser une question? Elle y répondra dans Les Auditeurs ont la parole, mardi sur RTL. On écoute votre question à Marion Maréchal.
J'ai été fier que notre nation, la France, inscrive le droit à l'IVG dans la Constitution. Eh bien, à l'échelle européenne, nous allons nous battre pour inscrire ce droit-là, dont sont privées encore tant de femmes européennes, pour inscrire ce droit-là dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Et j'aimerais connaître sa position, si elle est élue députée.
Très bien, elle répondra à votre question mardi prochain. On se retrouve dans une minute. D'autres questions pour vous?
Les auditeurs ont la parole.
Le grand jury des auditeurs.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le grand jury des auditeurs.
Bonjour Monsieur Glucksmann, c'est Kevin de Saint-Pierre-du-Chemin en Vendée. Alors j'entends que vous répétez qu'il faut que l'Ukraine vienne à tout prix la guerre contre la Russie. Mais alors concrètement, est-ce qu'il faut envoyer des troupes en Ukraine pour ça? Merci.
Voilà, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS, place publique pour ces européennes. Vous lui posez ces questions, il y répond. Il faut répondre maintenant à la question qui vient d'être posée par... comment s'appelle-t-il? Kevin.
Ben, je vais répondre à Kevin de manière très claire. Non, ce n'est pas ce que les Ukrainiens nous demandent d'ailleurs. Les Ukrainiens ne nous demandent pas d'envoyer des jeunes Français mourir sur le front en Ukraine. Ce que les Ukrainiens nous demandent pour pouvoir gagner cette guerre et résister à l'invasion russe, c'est d'abord des munitions, des armes. C'est d'abord de relancer notre production chez nous, d'être capable, finalement, d'être l'arsenal de la résistance ukrainienne. Et aujourd'hui,
Emmanuel Macron était trop loin quand il a parlé de...
Il a lancé un débat qui est un débat très français. Moi, j'aime beaucoup ce genre de débat français, c'est-à-dire que c'est un débat littéraire. Donc, il a lancé ce débat, personne ne le demandait. Et derrière, on a des gens qui sont arrivés, même des leaders politiques, et qui ont dit « je n'ai pas envie de mourir sur le front, moi qui suis jeune ». Mais personne ne vous demande d'aller mourir sur le front.
Que ce qu'on nous demande... Il y a des gens qui ont fait semblant de ne pas comprendre Macron, c'est ça?
Mais je pense que... Non, mais même lui a lancé un débat qui n'avait pas lieu d'être. Ouais. Et donc, en fait, on est parti dans le décor, là. Mais on a l'habitude en France de faire ça. Et d'ailleurs, ça frustre beaucoup nos partenaires européens. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se focalise sur ce qui est important. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que après 2 ans de guerre, où on sait qu'il va y avoir une pénurie de munitions depuis des mois et des mois, eh bien, notre ministre de la Défense s'enorgueillit de pouvoir livrer 3000 obus par mois en Ukraine. Vous vous rendez compte, la France, la principale industrie de défense européenne, 3000 obus par mois, les Russes en tirent 20 000 par jour.
Deuxième exportateur d'armes du monde.
Oui, les Russes en tirent 20 000 par jour. Et donc, notre incapacité à produire, notre incapacité à livrer, va nous mettre dans une situation sécuritaire catastrophique. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on se retrousse les manches et qu'on produise, qu'on soit capable de livrer. Et la deuxième chose, vous savez, quand, au moment où on se parle, il y a 206 milliards d'avoirs publics russes qui sont gelés dans nos banques. Il faut les saisir et affecter cette somme au soutien à l'Ukraine. Ça ne coûtera pas 1 euro aux contribuables européens et ça permettra de décupler l'aide qu'on apporte à l'Ukraine. Et c'est parfaitement légal. La Commission européenne propose de le faire et c'est Paris et Berlin qui, jusqu'ici, ont bloqué cette mesure. Et donc, il y a plein de choses à faire. Vous savez qu'au moment où on se parle, eh bien, nous continuons à importer du gaz naturel liquéfié, où la filière uranium fonctionne parfaitement bien, la filière du uranium enrichi avec la Russie. Il faut donc continuer à augmenter nos sanctions. On a plein de choses à faire pour être au rendez-vous de l'histoire. Et vraiment, vraiment, il faut comprendre que ce qui se joue, c'est notre propre sécurité, c'est notre propre liberté. Et que Poutine, s'il gagne en Ukraine, il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Il ira plus loin. Et que quand ce sera en Lettonie, par contre, la question qui vient de nous être posée, elle sera beaucoup, beaucoup plus d'actualité, beaucoup plus douloureuse. Donc pour éviter cette question... Pour éviter cette question, il faut faire ce qu'on doit faire maintenant pour soutenir l'Ukraine.
On va vous libérer dans un instant, car vous devez partir, et nous devons parler du handicap en France et de la mauvaise prise en charge du handicap. Mais une dernière question, est-ce que vous seriez un social-démocrate? Vous aimez dire cette expression, vous êtes un social-démocrate. Vous êtes un social-démocrate à la française, on va dire, ou à la danoise. Vous savez, cette première ministre danoise qui a dit, non, les migrants syriens qui ne viennent pas d'une zone de guerre, ils ne seront pas les bienvenus.
Oui, qui a...
vous rentrez chez vous en Syrie. Ben, vous seriez à la danoise ou à la française, vous?
Non, mais je serais à la française, parce qu'en fait, considérer la Syrie...
C'est-à-dire, vous pouvez venir chez nous.
Mais la Syrie de Bachar el-Assad comme un pays sûr. Sérieusement, ces gens-là, ils ont fui une guerre sanguinaire qui a tué 500 000 Syriens. Et il y a aujourd'hui une dictature. Ceux qui rentrent, ils disparaissent dans les geôles de Bachar el-Assad.
Avouez que la gauche danoise est quand même, sur les questions de la maîtrise des flux migratoires, beaucoup plus dure que la gauche française. Mais oui, 52% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon trouve qu'il y a trop d'immigrés en France. Mais peut-être que la gauche devrait bouger sur ces questions-là.
Vous me posez une question, et vous citez vous-même, dans votre question, la Syrie de Bachar el-Assad. Je veux dire, on peut discuter de tout, mais on ne va pas renvoyer des gens dans les geôles de Bachar el-Assad. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, et ça serait nier l'ensemble des principes qui sont les nôtres et qui constituent nos démocraties. Et donc... Moi, je suis social-démocrate.
Il y a des zones
français,
de la Syrie qui ne sont plus en guerre. Il y a des zones de la Syrie qui ne sont plus en guerre.
Ils ne sont pas en guerre, mais qui sont dirigées par un tyran. Et les gens qui ont fui ce tyran quand
comme les deux tiers de l'humanité. Deux tiers de l'humanité sont en dictature.
Les deux tiers
en autocratie.
Les deux tiers de l'humanité ne sont pas gouvernés par Bachar el-Assad. Et vous savez. Et vous savez ce qu'est la Syrie. Vous savez ce qu'a été cette guerre et ce qu'est cette guerre au moment où on se parle. Et que donc, le droit d'asile. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes des no-borders, mais le droit d'asile doit être respecté. Et alors là, quand on parle de la Syrie, il est totalement évident, ce droit d'asile. Et d'ailleurs, puisque vous le mentionnez, moi je suis social-démocrate, comme Jacques Delors, comme Robert Badinter, dans cette tradition-là française qui a été extrêmement puissante et qui a tant apporté à notre continent. Et donc,
merci.
Voilà, revitaliser et je vous remercie de votre invitation.
Merci beaucoup Raphaël Glucksmann de vous être prêté à cet exercice. Vous avez répondu aux questions des auditeurs. On a la parole, ça a été votre grand jury. Mardi prochain les amis, ce sera Marion Maréchal. Tout de suite nous allons parler de ces scandales, de ces défaillances de l'État dans la prise en charge du handicap en France. On vous attend en 32-10, à tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Oui, bonjour madame. Je viens voir si on peut parler du dossier concernant mon petit garçon.
Non, faut faire un mail directement. Il n'y a personne.
Mais pourtant, c'est marqué horaire 8h45, midi, 13h30, 17h. Il va falloir trouver un cadre, madame, parce que là, vous savez quoi, là ? J'ai ramené des chaînes, je vais m'enchaîner devant chez vous.
Vous allez vous enchaîner devant l'ARS.
Bah ouais. Vous ne croyez pas ? Vous voulez jouer la montre, là ? Vous avez une caméra ? Non, parce que là, je commence à un petit peu en avoir marre, là. Je demande juste, madame, s'il vous plaît, de pouvoir rencontrer un cadre.
C'est Sandrine qui élève seule son fils Arthur, 7 ans, atteint d'autisme sévère. Depuis des années, elle demande une place dans un institut spécialisé et elle menace de s'enchaîner devant l'agence régionale de santé. Nous réagissons, Lisa Marie, aujourd'hui dans Les Auditeurs ont la parole, à un incroyable dossier noir du handicap diffusé sur M6 hier soir, une enquête de zone interdite.
Oui, c'était donc zone interdite. On a pu voir dans cette enquête une accablante série de défaillances de l'État dans la prise en charge des personnes en situation de handicap en France et la détresse des parents d'enfants handicapés qui se sentent abandonnés. C'est le cas de Sandrine qu'on vient entendre, qui a donc menacé de s'enchaîner pour essayer d'avoir une place pour son enfant dans un établissement spécialisé.
Est-ce que la République française est à la hauteur du handicap dans ce pays ? Beaucoup d'appels. On commence tout de suite avec Sandra qui a fait le 32-10. Ma chère Sandra, bonjour.
Bonjour Eric.
Vous êtes maman, me dit Victor du Standard, vous êtes maman d'un enfant polyhandicapé. Mais alors qu'est-ce que c'est polyhandicapé, s'il vous plaît ?
Alors, polyhandicapé, donc mon fils a 20 ans, il est polyhandicapé, donc il ne peut rien faire tout seul. Il ne peut pas manger, il ne peut pas se déplacer tout seul, il doit porter des protections, etc.
Il parle ?
Non, il ne parle pas. Il communique à sa façon par des mimiques, par des vocalises, etc. Il y a de temps en temps le oui et le non, mais il ne parle pas.
Mais il n'est pas en fauteuil ?
Si, il est en fauteuil.
Ah oui, il est en fauteuil, d'accord.
Ouais.
20 ans, oui. Donc ça nécessite une prise en charge énorme, énorme.
On est d'accord.
Vous êtes en zone rurale, en ville ?
Alors, je suis en ville, même si c'est un peu... Moi, je me trouve un peu quand même à la campagne, parce que j'ai une base de loisirs pas loin, donc c'est un peu... On est dans un environnement quand même assez sympa.
D'accord.
Mais en ville, oui.
Est-ce que vous avez vu le zone interdite sur les dossiers noirs du handicap hier ?
Oui, c'est ce que je disais à Victor. Enfin, j'appréhendais beaucoup le reportage parce que je connaissant un certain nombre de problèmes, j'avais peur. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était la façon dont le sujet allait être traité.
Est-ce que vous vous reconnaissez dans
quasiment toutes les situations.
C'est-à-dire que vous considérez aujourd'hui que la République française, l'État, a délaissé votre fils...
Totalement.
Ah bon ? Donnez-moi des exemples, parce que beaucoup de gens qui ne sont pas confrontés au handicap ne découvrent en fait ce problème.
Totalement. Alors déjà, je savais qu'il manque de place, mais alors ça c'est sûr et certain. Moi j'ai été obligée de sortir le mien deux fois. De ces deux premiers établissements suite à des problèmes. Le premier, des négligences qui ont failli le tuer, avec deux accidents à 3 semaines d'intervalle. Et là, le deuxième, qui pour moi était de la maltraitance institutionnelle pure et simple, qui a été niée, hein, bien sûr, dans les deux cas. On a essayé de minimiser les choses pour essayer de me calmer, que je ne fasse rien, etc. Et je sais que dans le deuxième établissement, le personnel avait même pour instruction de ne pas dire aux parents qu'il y avait des problèmes dans l'établissement.
Et aujourd'hui, il est pris en charge où, votre fils ?
Nulle part.
Il est à la maison ?
Ça fait 16 mois qu'il est à la maison. et 3 ans qu'il est sur liste d'attente pour une maison d'accueil spécialisée.
Attendez.
C'est un établissement.
Attendez, parce que là, franchement, je reste calme, mais là, c'est 3 ans qu'il est sur liste d'attente, oui, pour aller dans un établissement spécialisé. Ne bougez pas, je vous garde. Hein. Antoine, oui, a fait le 3210, et je voudrais qu'on prenne Antoine une seconde, parce que Victor vient de me dire, nous avons Antoine qui est un éducateur spécialisé en Belgique. C'est ça, Antoine ? Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, c'est ça. Je suis éducateur spécialisé en Belgique. Moi, je travaille en foyer d'hébergement. Mmh. Donc, je travaille avec des adolescents qui ont une déficience légère ou modérée, avec des troubles du comportement ou pas.
Mais en Belgique, me dites pas que vous avez des patients handicapés français.
Ah si, moi dans mon institut et dans beaucoup d'instituts en Belgique, c'est quasiment que des Français.
Attendez, j'ai bien compris, vous venez de me dire, dans mon institut en Belgique, c'est pratiquement que des Français ?
Oui, c'est ça.
Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Mais pourquoi ? Je comprends pas. Ils sont pris en charge en Belgique ?
Oui, ils sont pris en charge. Beaucoup de il y a à la frontière belge, énormément d'institutions sont... héberge quasiment que des Français. Il y a très peu de Belges qui sont accueillis. Ça pose même un problème à la Belgique parce que forcément il y a moins de place pour les Belges qui ont besoin d'être accueillis. Mais vu que la France paye plus pour placer en Belgique.
Mais qui paye ? Qui paye ? Les parents, la sécurité sociale ? Qui paye des institutions en Belgique pour prendre en charge des enfants citoyens français handicapés en situation de polyhandicap ? Qui paye ?
C'est les départements en général qui payent, donc c'est la sécurité sociale et il y a une partie, ça dépend des prises en charge, donc il y a des prises en charge ASE quand il y a un placement judiciaire ou quand c'est purement du handicap, c'est la MDPH. Après, les deux profils peuvent
se... Pourquoi est-ce qu'on les met pas dans la Meuse, en Dordogne, dans le Finistère ça semble un peu hypocrite comme système. Pourquoi l'État français les envoie hors de nos frontières ?
Ah bah, tout simplement parce qu'ils veulent pas construire de centre, il me semble. Hein. Je pense que c'est tout simplement ça. Parce que c'est vrai que nous, tous les parents qui viennent nous confier leurs enfants, ils nous disent que ils ont du mal à trouver de la place en France. Et du coup, ça les éloigne de la famille. Nous, on a beaucoup de Parisiens.
Non, mais ce truc est révoltant. Alors franchement, j'en ai vu des sujets un peu fous dans ma vie, mais là, ce truc est absolument dingue qu'on envoie des gamins handicapés ou des adultes handicapés pris en charge en Belgique parce que chez nous on veut pas construire de centre. Ça me paraît totalement loufoque et totalement fou. Antoine, restez avec nous. On va continuer à parler de ce sujet. J'avais prévu d'en parler 10 minutes, mais on va continuer à en parler. Vous êtes parent d'enfants handicapés, vous vivez cette situation ou pas d'ailleurs. Vous voulez témoigner, 3210, le standard est ouvert. Et Victor vous attend au standard, bien sûr. Jean-Alphonse Richard, bonjour.
Bonjour Éric Brunet.
De quoi parlons-nous dans l'heure du crime sur RTL à 14h30 ?
Alors écoutez, on va aller en Haute-Garonne, c'est près de Saint-Gaudens, un petit village. On a retrouvé un homme mort dans un canal, dans sa voiture accidentée. Il s'appelle Brice Louge, il a 30 ans, c'est un ouvrier agricole. Et lorsqu'on l'a retrouvé, il venait tout juste d'être surpris dans le lit de sa patronne. Alors comme ça fait un peu vaudeville. Sauf que là, il y a un vrai mystère criminel. Est-ce qu'il s'est suicidé en se jetant dans ce canal d'irrigation ? Parce que peut-être après tout, il avait honte, il n'osait pas le dire, etc. Il s'est fait surprendre dans une fâcheuse position. Ou bien a-t-il été poussé dans ce canal, poursuivi et tué ? Accident, suicide, homicide, depuis 2 ans, tout se joue dans cette affaire autour de quelques expertises. Et les dernières, elles sont toutes récentes, elles viennent d'arriver dans le dossier, elles aboutissent à un possible spectaculaire scénario. Je vous en dis pas plus, mais vous allez suivre ça dans l'heure du crime. C'est le mystère Brice Louge. Est-ce que ce mystère est-il en train d'être levé ? Eh bien, on en parle 14h30 dans l'heure du crime.
Merci Jean-Alphonse, à tout à l'heure. Nous, on vous retrouve dans une poignée de secondes pour le rappel des titres et continuer vos appels sur le handicap tellement mal pris en charge dans ce doux pays de France. À tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL.
RTL, il est 14h. Les toutes dernières infos avec Lisa Marie Marquez à la une. Lisa Marie, près de 130 collèges et lycées ont été visés par des menaces terroristes depuis la semaine dernière.
Un chiffre communiqué par le ministère de l'Éducation nationale, ces menaces ont été envoyées via les espaces numériques de travail en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région Grand Est.
Des menaces alors que le gouvernement a par ailleurs annoncé le renforcement du plan Vigipirate en France.
Il a été rehaussé à son niveau maximal. Emmanuel Macron l'a justifié ce matin à son arrivée en Guyane en expliquant que la branche du groupe État islamique impliquée dans l'attaque qui a fait au moins 137 morts à Moscou avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur le sol français.
Justement, dans ce contexte à Moscou, les quatre auteurs présumés de cet attentat ont été placés en détention.
Ces hommes ont comparu hier soir, mais le Kremlin refuse toujours de reconnaître l'implication de l'État islamique et invoque plutôt la responsabilité du gouvernement ukrainien.
En France, face au défi abyssal du déficit, eh bien François Bayrou, lui, qui était au micro de RTL ce matin, a une proposition concrète.
Le patron du Modem a remis sur la table la taxation des super-profits, une position jusque-là écartée par le ministre de l'Éducation de l'économie, Bruno Le Maire.
Et puis un point sur la météo.
Demain, mardi, en résumé, couvrez-vous. Le temps deviendra très nuageux sur toute la France. Des pluies remonteront du sud pour finir par concerner toutes les régions. Côté température, le matin, 3 à 7 degrés en général et 9 à 15 degrés attendus l'après-midi.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Le week-end, quand il rentrait à la maison, son corps était couvert d'importants hématomes.
Dans le monde du handicap, c'est tellement plus facile d'être malveillant et d'être dans la violence, la maltraitance, parce qu'il n'y a pas de retour. Nos enfants ne viennent pas nous raconter ce qu'ils subissent. Franchement, c'est un gentil, ils nous l'ont détruit. J'ai une telle colère, je leur en veux en fait, je leur en veux tellement.
En 4 ans, Gaston a déposé 2 plaintes pour violence sur personnes vulnérables, mais l'enquête est toujours en cours.
Gaston est avec nous, justement. Nous faisons référence, Lisa Marie, à ce reportage diffusé hier, un reportage choc sur M6, un scandale et défaillance de l'État, les dossiers noirs du handicap.
Oui, une enquête zone interdite sur la prise en charge du handicap en France et notamment des enfants. On pouvait écouter et entendre et découvrir des parents d'enfants totalement abandonnés par l'État dans la prise en charge de leurs enfants.
Alors, il y a un sujet qu'on vient d'évoquer, hein, c'est-à-dire que les enfants en France sont pris en charge à l'étranger, parce qu'il n'y a pas de centre en France. Il y a des centres spécialisés pour les Français en Belgique. Il y a des centres partout et il n'y a que des Français dedans en Belgique. Donc c'est absolument stupéfiant. Et là, nous sommes avec Gaston, le papa de Gaëtan, 27 ans, je crois, et dont il est question, Gaston, dans ce zone interdite d'M6 diffusée hier. Bonjour, Gaston.
Oui, bonjour, monsieur Brunet. Bonjour, madame Marquez.
Vous, votre fils Gaëtan, alors là c'est un autre problème, c'est plus les places de prise en charge. Lui, il a été victime de maltraitance, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'est heurté à un problème de prise en charge très tôt, malheureusement. Alors, notre grande difficulté aujourd'hui, et c'est pour ça que le reportage a été très important pour nous, c'est de pouvoir enfin... Le terme n'est pas très bien choisi, mais attirer la lumière sur ce genre de dysfonctionnement qui sont ne serait-ce que la difficulté de dénoncer.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent n'ont pas vu Zone Interdite hier soir. Que s'est-il passé ? Qu'a eu votre fils Gaëtan de...
Alors l'événement, le dernier événement qui est bien sûr le plus grave, on était parti avec lui à la mer quelques jours avant pour le week-end de l'Ascension et... comme d'habitude, après il est reparti pour quelques jours au foyer et on a été appelé dans la nuit du 2 au 3 juin 2022 vers 5h du matin où on nous annonçait que Gaëtan était parti avec les pompiers aux urgences du centre hospitalier de Valenciennes dans le Nord. Donc on me dit que c'est pas trop grave, je sens bien dans le ton de la voix de la personne qui m'appelle qu'il y a à la fois de l'inquiétude et de l'angoisse dans la voix, donc j'ai pris ma voiture et j'ai roulé le plus vite possible pour le rejoindre. Il venait d'arriver avec les pompiers et donc là il était déjà dans le coma et en urgence vitale.
Ouais. Et que s'était-il passé ?
Alors pour l'instant, on a des suppositions, c'est-à-dire que on a pour l'instant aucune réponse de la part de la justice. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai vu, c'est-à-dire que je l'ai vu mourir, il a été réanimé. On a des suppositions, des diagnostics qui sont posés par les médecins, qui sont des surdosages de médicaments, une fracture très importante de l'épaule. Il en a malheureusement perdu l'usage et cela, il y a des chances que ça sera à jamais. Et là, il est parti le combat pour la vie, c'est-à-dire qu'il s'est battu pour survivre. Excusez-moi, je suis extrêmement ému. C'est compliqué parce que les images reviennent. On a eu des soignants à l'hôpital qui ont été extraordinaires. Ça a été très long et il a extrêmement souffert. Il a eu mal comme jamais. Mmh. Et la réanimation, si vous voulez, je pense souvent quand j'entends les infos de... On parle de gens qui sont en urgence vitale ou en réanimation. Les gens pensent que le coma, c'est... Enfin, quand je dis les gens, je veux pas... C'est pour généraliser un petit peu, mais ne se rendent pas forcément compte des conséquences que ça a sur le corps humain, de la souffrance que c'est. Il faut tout réapprendre, hein. Manger, boire, parler quand les gens sont verbaux, bien évidemment. Oui.
Alors Gaston, votre fils, quand il a fait cet accident sur lequel vous vous interrogez toujours en 2022, était placé, donc il était en situation de handicap, je le dis parce que je pense toujours à ceux qui n'ont pas vu Zone Interdite hier, il était en situation de handicap placé dans cet établissement qu'il prenait en charge du côté de Valenciennes, il avait à peu près 25 ans quand c'est arrivé. Comment est-il, donc vous nous parlez de ce coma, vous nous parlez des questionnements que vous avez, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui lui est arrivé. Vous nous parlez de son épaule dont il a perdu l'usage. Tout ça, c'est en 2022. Et qu'en est-il aujourd'hui ?
Rien. C'est-à-dire que nous, bon, en plus, nous avions déjà porté plainte. Hein. C'est-à-dire que nous avons porté plainte en 2019. Bon, après est arrivé le Covid qui a, j'imagine, compliqué un peu les choses. J'ai fait des dizaines de signalements à l'ARS. Hein. Je pense que vous avez... Enfin, dans le reportage, pour les gens qui n'ont pas vu, mais on a alerté à chaque fois. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des parents qui ne nous interrogeons pas. On ne met pas forcément la réponse des soignants ou de l'établissement en doute à chaque fois. C'est-à-dire qu'on peut comprendre, hein, que c'est une vie en société, dans le monde en plus d'autistes. Donc c'est comme l'école, hein, on peut se faire mal dans une cour de récréation. Ça peut arriver, je veux dire, on n'est pas là, on ne fait pas le procès des soignants. Il est aujourd'hui, Gaëtan, depuis son accident, des soignants s'occupent de lui. Ça se passe heureusement à merveille et dans la bienveillance totale. Ça, je tiens à le dire aussi, parce que le problème souvent, c'est que l'opprobre peut être jeté sur l'ensemble de la profession,
oui, c'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas toujours le cas.
Vous, votre histoire, c'est l'histoire d'un gamin, d'un jeune homme autiste qui, sur lequel il y a des questions, sur les questions de prise en charge. Vous ne dites pas, il y a tout le temps des accidents, les soignants sont nuls, etc. C'est pas du tout votre propos, mais c'est qu'il y a une certaine opacité sur les événements qui surviennent au sein des établissements. Et là, il y a un événement qui a fichu en l'air votre vie, il faut pas exagérer, mais qui a été terrible, quoi, pour vous, et sur lesquels vous n'avez aucune réponse, Gaston. C'est ça.
Il y aura des conséquences toute la vie de mon fils, au minima. Oui. Et aujourd'hui, on a, alors si vous voulez, comme je dis souvent, le handicap c'est compliqué, c'est également une, enfin je veux dire, on parle souvent des différences, etc., mais ce sont des personnes qui sont donc plus vulnérables, oui, qui devraient être protégées. C'est un milieu protégé, un foyer d'accueil médicalisé, hein, ce n'est, oui, pas un milieu comme les
et
autres.
Et là, vous avez eu le sentiment que votre fils, pardon, n'a pas été protégé. Restez avec nous, Gaston, hein, restez avec nous, beaucoup d'appels. On va prendre à Laetitia, elle est là, Laetitia, bonjour ma chère Laetitia.
Oui, bonjour.
Bonjour. Eh bien, je vous garde au chaud et je vous prends dans une petite seconde. Dans les auditeurs ont la parole. À tout de suite.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes la minute.
Éric Brunet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On réagit, hein, sur l'enquête de Zone Interdite diffusée hier soir sur M6 sur les défaillances de l'État dans le secteur du handicap. On a eu Sandra qui nous parlait de la difficulté de la prise en charge. Hein. Il n'y a pas d'établissement de son fils polyhandicapé. On a eu Antoine qui nous a dit « Mais moi, je suis un aidant, un éducateur spécialisé, je suis en Belgique et dans les établissements en Belgique où je travaille, il n'y a que des Français ». Voilà, les Français nous les confient parce qu'il n'y a pas d'établissement en France, donc ils viennent en Belgique. Et puis on était sur une autre question encore avec Gaston, qu'on a vu hier dans le reportage de Zone Interdite, qui lui dit, autre sujet qu'il faut évoquer, c'est la maltraitance. Il y a deux ans, on lui dit, votre enfant est dans le coma, il a une épaule qui est totalement détruite. Comment ça s'est passé? Où ça s'est passé? Dans quel contexte? On le saura pratiquement jamais. Voilà, et c'est un gamin autiste de 25 ans à l'époque, et... On sait rien. Donc la maltraitance, c'est aussi un sujet. Victor, les messages que nous avons.
Les messages sur nos réseaux sociaux et sur notre application RTL. Pascal à Créteil. Eric, rendez-vous compte, j'ai déménagé en Espagne pour mon fils autiste. La France a la bombe atomique et pas un euro pour ses enfants handicapés. Liberté, égalité, fraternité, vraiment. Jean-Luc, c'est quand même drôle ce pays. Il faut toujours secouer le cocotier pour que l'État constate le désastre de son incompétence. Et Gwenola rajoute, ce n'est là pas nouveau. Nombre d'enfants français sont aujourd'hui confiés à nos amis belges. Quelle tristesse.
À nos amis belges, à nos amis italiens aussi, et vous venez de le dire, à nos amis espagnols, c'est assez délirant. Laetitia a fait le 32-10. Bonjour Laetitia.
Bonjour Eric.
Vous êtes dans quel coin de France?
Donc j'habite près de Nantes.
Vous avez un enfant handicapé?
Je suis présidente et fondatrice d'un collectif de famille qui s'appelle Handicap 44 en danger, et je suis moi-même maman d'un enfant en situation de handicap qui a 12 ans et qui est autiste épileptique avec une maladie génétique rare.
Est-ce que vous êtes heureuse de la prise en charge de votre enfant en Loire-Atlantique?
Alors actuellement, cette année, c'est un peu mieux, mais j'ai eu de nombreuses difficultés. En réalité, nous sommes en grande souffrance pour de multiples familles. Non, on ne peut pas dire que le handicap est bien pris en charge, je dirais, globalement en France et sur notre département de Loire-Atlantique. C'est une catastrophe. Nous avons plus de 2300 familles qui attendent des places en établissement spécialisé.
Je vais vous dire une chose, Laetitia. Jusqu'à présent, quand j'entendais parler de ce sujet, je disais, bon, les parents protestent, c'est normal. C'est dur d'avoir un enfant handicapé, alors pour eux, la prise en charge n'est pas optimale. Bon, il faut les comprendre, mais en réalité, ça doit pas être pire qu'ailleurs. Et depuis une demi-heure, là, j'ai complètement changé de mon fusil d'épaule. Je réalise ce qui se passe, tous ces centres qui sont créés à l'étranger pour prendre en charge les enfants français. Enfin, je me dis, il y a un énorme problème.
En fait, on a, en France, on a, par exemple, sur le département de Loire-Atlantique, on a eu zéro création de place sur les établissements médico-sociaux. Il faut savoir qu'il y a les établissements médico-sociaux qui font très bien leur travail aussi en France. Malheureusement, il y a un manque de moyens. On voit très bien dans le reportage M6 qu'il y a beaucoup de professionnels qui se retrouvent en grande difficulté parce qu'on a une pénurie de professionnels, une carence des professionnels au sein même des établissements. Et donc du coup, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour tout le monde. Et puis en réalité, c'est qu'on a la moitié des enfants qui sont dans des instituts médico-éducatifs qui pourraient réellement être inclus si seulement l'école était vraiment inclusive.
Oui, ben là, oui. Alors après, il y a l'énorme mythe à la française. Nous allons, dans notre souci d'universalisme, inclure tous ces enfants handicapés dans l'école. Bon, c'est juste, voilà, une légende urbaine, ça. Hein.
Exactement. Dans quelles conditions dignes, en fait, est-ce qu'on accompagne ces enfants? Il n'y a pas assez de dispositifs ULIS, comme on le voit. Il y a des enseignants qui sont très bien, mais il y a aussi des enseignants qui ont une très mauvaise volonté pour accompagner aussi nos enfants. Il y en a qui se retrouvent aussi en difficulté. Quand on inclut sur des groupes classes de 30, ça devient très difficile. Il faut suffisamment de formation aussi. Et puis, quand bien même, quand on a des notifications qui sont légales et qui ne sont pas appliquées par l'éducation nationale, faute de recrutement, parce qu'ils arrivent à recruter personne. Et donc, du coup, il y a des enfants qui sont accompagnés 3 heures par-ci, 6 heures par-là. Et voilà. Et nous, l'année dernière, on a mangé dans la voiture à cause de la jurisprudence du Conseil d'État. Des milliers d'enfants qui sur des temps de cantine, sur des temps de scolarisation, des enfants qui sont déscolarisés, des enfants qui sont maintenus à l'école et qui sont en attente de place en établissement spécialisé. Rien que sur notre département, nous en avons 1200.
C'est fou. Je résumerai la situation à la France en matière de handicap, c'est le pays des listes d'attente. Voilà. Alors, les professionnels qui font leur travail le font bien, mais il n'y a pas de place. Attendez, Laetitia.
On a des professionnels, oui, qui font vraiment leur travail avec cœur. Et par contre, en fait, nous, familles, nous sommes complètement abandonnés.
Martine, merci Laetitia, merci beaucoup. Je vais prendre Martine. Bonjour Martine.
Oui, bonjour Eric.
Vous êtes également maman d'un garçon ou d'une fille en situation de handicap ?
Oui, je suis maman d'une fille, Laetitia, qui a eu 50 ans. Mmh. Et les deux témoignages là que je viens d'entendre m'ont beaucoup émue parce que voilà, je me retrouve au travers de ça, c'est-à-dire tout ce cheminement quand ils sont petits, le manque de place, le manque de chercher dans d'autres départements où on n'est pas prioritaire. Ensuite, à 20 ans, on nous dit, ben voilà, votre enfant, il a 20 ans, donc nous, on peut plus le garder, il faut essayer de trouver quelque chose dans votre département. Là, bon, ben, on crée des associations, on monte des projets, c'est très long, mais on s'accroche. Et puis un jour, tout devrait bien fonctionner, il arrive l'accident. Ma fille a été agressée par un autre résident. Alors, évidemment, on ne peut pas impliquer une cause à ce résident parce que lui-même est autiste. Mais elle a été agressée très violemment, mordue aux bras, aux mains, aux avant-bras, au visage. Et là, le directeur m'a expliqué qu'elle s'était fait ça toute seule. Voilà. Et il l'a fait hospitaliser en psychiatrie.
Il gère son risque juridique, comme on dit. C'est scandaleux.
Oui.
C'est la question de la maltraitance qui a été soulevée par Gaston tout à l'heure.
Exactement. Et les séquelles ont été terribles parce que elle a été envoyée en psychiatrie, donc double peine, pour que je réussisse à la faire sortir de cet établissement psychiatrique. Il a fallu que je me batte avec l'administration, avec les psychiatres, parce qu'elle avait été hospitalisée sous contrainte par le directeur. Donc, je l'ai ramenée à la maison. Et là, le psychiatre m'a dit, de toute façon, elle ne peut pas retourner dans l'établissement où elle est. Donc, soit elle reste en psychiatrie, soit vous la reprenez. Ma fille avait plus de 40 ans. Donc, elle est revenue vivre à la maison, où là, ça a été dramatique pour elle. Parce qu'elle avait été tellement traumatisée par ce qu'elle avait vécu qu'elle ne supportait plus aucun vêtement, elle ne mangeait plus. Enfin, et il a fallu reprendre tout depuis le début pour arriver à stabiliser les choses.
Merci Martine ce témoignage. Merci Martine pour ce témoignage. Ça me fend le cœur de vous couper, mais qu'est-ce que vous voulez avec Lisa Marie ? On pilote une émission et il y a des horaires à respecter. Merci beaucoup Martine. On voulait juste vous donner à tous et à toutes la parole après ce reportage incroyable de Zone Interdite hier sur la mauvaise prise en charge du handicap en France. Merci, c'était bien de vous entendre. Et aujourd'hui, comme tous les jours, vers 14h20, eh ben oui, on a nos petits rendez-vous. C'est notre Français, notre Française du bout du monde, notre auditeur, notre auditrice du bout du monde.
Et aujourd'hui, c'est une auditrice et comme tous les jours, vous pouvez deviner la destination, où elle se trouve. Aujourd'hui, un indice sonore pour trouver cette destination.
J'irai là-bas.
Ça fait rire Cyprien, qui vient de rire Cyprien, qui est dans ce studio.
Ah, tout le monde l'a, je crois.
En tout cas, si vous avez trouvé, comme Eric et Cyprien, vous nous envoyez un message sur l'application RTL pour remporter un guide du routard.
RTL, bonsoir Cyprien, le menu de ce soir.
Très très beau casting ce soir, on recevra The King, Eric Cantona à l'affiche d'une série événement sur M6 demain soir, mais aussi Alexandra Lamy pour un thriller écologico-politico-financier, c'est au ciné mercredi, La Promesse Verte, ça va être génial, et évidemment, on reviendra sur cette menace terroriste qui plane sur la France, enfin comme tous les soirs. Le grand quiz, un week-end en 4 étoiles à Canet en Roussillon pour vous inscrire 32-10 dès maintenant.
A tout de suite pour l'auditrice du bout du monde.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Eric Brunet. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Eric Brunet sur RTL.
Victor, où se trouve l'auditrice du bout du monde ?
L'auditrice du bout du monde se trouve à New York et c'est Catherine à Carcassonne qui remporte un guide du routard.
En route !
L'auditeur du bout du monde.
Bonjour Farah !
Bonjour !
Alors, passez la tête par la fenêtre et dites-nous ce que vous voyez. Comment c'est New York ?
Alors, si je passe ma tête par la fenêtre, je vois un mur en face de chez moi parce que les bâtiments sont en U. et donc je n'ai pas de vue sur la route.
Ah, la pauvre femme.
Ah non.
Quel temps fait-il à New York aujourd'hui? Vous le savez
quand même.
Quelle
heure est-il, Farah? Il est tôt, là.
Il est tôt, là.
Oui, il est 9h25.
Oui. Quel temps fait-il? Il fait beau?
Il fait pas très beau, il fait très froid.
Très froid. Ah. Que faites-vous à New York?
Je suis pâtissière dans un restaurant 3 étoiles Michelin.
Ah bon? Et vous êtes... bah oui, alors bien évidemment, il y a dans la pâtisserie, il y a du travail pour les Français dans le monde entier.
Exactement. D'ailleurs, j'ai une collègue qui est arrivée là de France, elle est arrivée il y a 2 semaines. Et elle est très compétente et ça fait très plaisir de travailler avec elle parce qu'elle apporte vraiment beaucoup. Donc effectivement, on se rend compte que pour les métiers de la gastronomie, on est plutôt bien formé en France.
Et Farah, c'est un restaurant français où vous travaillez ?
Non, alors c'est un restaurant qui n'a pas vraiment d'étiquette au niveau de la gastronomie. À la base, c'était un bistrot qui s'est transformé en restaurant Michelin au fil des années. Et donc maintenant, ils font de la cuisine 100% végétale. Donc c'est le premier restaurant du monde à avoir 3 étoiles au guide Michelin qui est 100% végétalien. Et donc, ils sont très inspirés par la cuisine du monde.
Les cuisines du monde. Vous êtes de quel coin en France ?
Moi, je suis du Poitou-Charentes. Je viens de Poitiers.
De Poitiers. Eh, dites-moi, c'est mieux d'être pâtissière, chef pâtissière dans un étoilé à New York ou à Paris ?
Je sais pas trop. Moi, je suis venue pour la cuisine végétale. Et du coup, j'ai travaillé à Paris également. Mais je dirais que pour l'ouverture d'esprit, la liberté de créativité, c'est un peu mieux d'être à New York.
Vous avez quel âge ?
J'ai 28 ans.
Vous allez faire une carrière dans le monde entier, vous, je le sens. Vous n'allez pas rentrer à Poitiers.
Bah, je vais rentrer pour voir ma famille, mais après, je ne sais pas trop, oui.
Et Farah, c'est quoi votre dessert signature ?
C'est une question un peu difficile, mais je dirais que j'adore faire des tartes.
Des tartes, voilà. Ça ne veut rien dire.
Oh,
des
c'est
tartes.
Classique.
Quelles
après...
tartes? Lesquelles? Quoi? Une tarte que vous préférez particulièrement?
Moi, j'adore les agrumes, donc je dirais plutôt des tartes citron, des choses comme ça.
Bon, vous allez faire des jogging à Central Park un peu, de temps en temps?
J'aimerais bien, mais je travaille énormément, donc je n'ai pas trop le temps d'aller courir.
Vous prenez votre travail à quelle heure aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis en repos.
Ah.
C'est pour ça que je peux vous téléphoner. Mais sinon, mes horaires, je commence à 6h du matin. Et je finis quand j'ai terminé mon travail.
Merci à Farah, jeune pâtissière française, 28 ans, qui exerce à New York avec cette ville électrique.
Ça fait rêver.
La liberté. Merci Farah et bonjour Jean-Alphonse Richard.
Bonjour Eric.
On va pas à New York, on est dans le sud-ouest.
En Haute-Garonne exactement. Hein, la mort mystérieuse de l'ouvrier agricole Brice Louge dans un petit village effectivement de Haute-Garonne. À tout de suite.
À tout de suite dans l'heure du crime. Merci à tous. Merci Lisa.
À demain.
À demain.